Station Sérail.
Station Sérail interroge les liens que nous entretenons avec nos territoires.
Nous partons de ce principe que chaque lieu se charge et se transforme à la mesure de nos passages. Chaque corps se charge et se transforme à la mesure des paysages qu'il rencontre et des histoires qu'il y inscrit. Nous sommes liés de manière sensible et immatérielle aux espaces que nous occupons. Commune de Québriac, épisode numéro 2, 27 avril 2023. Nous sommes en ce moment en train d'écouter cette émission chez Loulou au Grain de Café. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre pour partager un verre de cidre.
J'ai tombé à la mauvaise époque parce que je suis né en 25 janvier 33 et quand je suis né, j'avais le don de penser le venin. Et alors il me dit ça, je l'ai appris, j'avais 7-8 ans, que j'avais le don de penser le venin, mais pour cela, fallait être né un 25 janvier baptisé le même jour, on m'a dit. Par contre, j'en ai pensé beaucoup. Surtout des bêtes, des personnes, des humains, j'ai juste pensé deux personnes qui avaient été mordues au pied par des vipères. Autrement, les autres, c'était des chiens au moment de... Surtout à l'ouverture de la chasse. Ils s'amenaient avec une boule sous la gorge, là, ça n'avait plus dire long. Ça a duré des années, mais maintenant, comme il y a de moins en moins de vipères, j'ai plus de travail pour le faire, ou moins.
Lors de notre voyage, nous avons rencontré Gérard par hasard, bien que je n'y crois pas tellement, au hasard. Nous avons pris place à ses côtés, dans son wagon. Quelques minutes d'arrêt. Le train reste en gare.
Il restait pour fixer l'ouverture.
Il était là, assis sur une banquette en cuir dans le bistrot du village, adossé au mur, face à la télévision. Sur son côté droit, une baie vitrée. On le voyait depuis la rue, pris dans l'encadrement de la fenêtre. Il aurait pu être le personnage principal d'un tableau de Hopper, tout en délicatesse, dans une tranquillité matinale. Nous sommes en avril.
Je voyais plus souvent ma grand-mère, parce qu'il habitait à Saint-Céliac. Alors, le jeudi, quand on n'avait pas d'école, j'allais à pied les voir. Et puis, elle avait deux ou trois vaches. Et elle était comme moi, elle était sourde. Et puis, elle filait au rouet, la laine de brebis. Non, elle n'avait pas de brebis, c'est les gens qui amenaient de la laine. Qui amenaient la laine et puis filaient. Elle avait trois vaches, mais pas de brebis. En 39, on a eu la guerre. Et puis, en 39, j'avais 6 ans et demi. Et mon père est parti à la guerre. Et il a été prisonnier en 40. Et puis, ma mère avait deux vaches. Elle est tombée malade et crochait le sang à pleine bouche. Pas de médicaments, pas de docteur, rien du tout. Et bien, c'est moi, alors à partir de 9 ans, qui était obligé de traire les vaches et barater pour avoir le beurre et tout. Tout ce qu'il y avait à faire, parce que ma mère à l'époque, elle ne pouvait même pas se couper du pain. C'est moi qui devais le couper. J'ai une sœur, mais elle est 7 ans plus jeune que moi. Moi, je suis né le 25 janvier, et elle qui est née le 12 octobre 1939. Et justement, mon père, il est parti le 3 septembre 1939, et il a eu une permission pour venir voir la naissance de sa fille, ma soeur. Mais là, je me rappelle de sa naissance comme si ça venait de se produire. Ah, madame, il a couché à la maison. Hein. Bah oui, il y avait une sage-femme qui appelait ça, madame, mademoiselle Nobilé, qui était à Tintignac. Et ben, comment. Elle se déplaçait, forcément. Oui. Mais pour ma frangine, je ne sais pas exactement. Tandis que pour moi, ils m'ont toujours dit que le 25 janvier, il glaçait dur. Et puis, ils furent avec une voiture et un cheval, leur cherchaient vers 2h du matin, madame Nobilé. Et comme il glaçait, comme éclairage, il avait une lampe à carbure, et puis que ça marchait avec de l'eau, et bien l'eau glaçait, il n'y a plus de lumière. Alors, ils m'ont dit ça. Mais pour ma frangine, je l'entends, quand elle est née, je l'ai entendu vers 3h du matin, j'ai entendu pleurer, et que je n'étais pas au courant de rien, je ne connaissais rien. J'étais dans la cuisine, et puis mes parents avaient quand même une chambre. J'ai entendu crier, oh, il a encore dû embarrer un chat dans la maison. Les Allemands sont arrivés en 1939. C'est en 40. Au mois de juin 40, qu'ils sont arrivés là. Madame, pendant 4 ans, on était sous l'occupation. Ils ramassaient tout, on n'avait plus rien à manger. Nous, en campagne, on faisait encore des patates, du blé, on a réussi à se nourrir comme ça, quoi. Et puis, mais malgré son malheur, mon père, il a porté 5 ans prisonnier, il a fait 2 ans et demi. Il a été rapatrié comme malade, sans pension, parce qu'il avait... Il avait fait de l'otite mastoïdienne et puis il avait du pus dans l'oreille et puis il avait tiré au flanc pour arriver à s'en sortir. Et il est revenu de prisonnier en 42, au mois de juillet 42.
Vous vous souvenez du jour où il est revenu ? Est-ce que vous vous souvenez du jour où il est revenu,
oui,
votre père ?
Oui, parce que d'Allemagne, il fallait qu'il venait se faire démobiliser à Lyon. À Lyon, c'était une zone libre, c'est là qu'il est démobilisé. Mais il est resté à Lyon parce qu'il en démobilisait 2 par jour. Il ne pouvait pas faire plus parce que s'il avait tout démobilisé, il aurait tout mettre au chômage. Alors c'est pour ça qu'il est resté un mois à Lyon. Et pendant tout le mois de juin-juillet, parce qu'il faisait le foin là-bas. Alors il a donné un coup de main à faire le foin. On a vu une photo, il était à faire le foin sur la charte, avec une charrette et un cheval. Là. J'ai vu la photo. On savait ma mère et moi, on fut au devant de lui. Mais on fut pas mal loin, on va jusqu'au grand bord. Et puis c'est là que... Madame, après, il a tout tranquille, il a repris le travail, la maçonnerie, en 43. Mais en 43, j'avais 10 ans. Un beau jour, c'était un dimanche. Il y avait un convoi allemand avec des charrettes et des chevaux. Ils étaient stationnés au logis, au château du logis, dans la chapelle. Et ce dimanche-là, toute la matinée, on entendit un avion ronronner. On l'entendit sans arrêt, tout en ron. On ne voyait point, il était dedans. Hein. Oh, peut-être 2 heures après qu'il fut parti, il y avait des Canadiens, 4 avions de chasse, ils mitraillirent le convoi. Sur au moins 5 km dedans, le dimanche l'après-midi, il y avait 22 chevaux tués sur la route. Et tout ça te broyait. Je fus voir le lundi matin en allant à l'école, moi. Et je fus voir aussi, étaient 2 par 2, attelés sur le côtier, avec des charrettes à 4 roues. Là. Et tout ça te... Non, par contre, on ne vit pas de mort. Si, je ne sais pas s'il y en avait ou quoi, mais s'il y en avait, ils les avaient enlevés dans la nuit. Là. J'ai vu des choses, comment te sous-développer. J'ai vu des choses pendant mon service militaire que je n'aurais jamais vu. Oui, ça m'a très instructif. Ne serait-ce que pour écrire, parce que pour se communiquer, il n'y a pas de téléphone. Si on voulait avoir des nouvelles de nos parents ou des amis, il fallait envoyer une lettre pour qu'ils te répondaient. Et puis, permission, pas question de s'en venir. Si, on a une permission au bout de 8 mois. Quand j'ai commencé à travailler avec mon père, lui, il ne faisait que de la maçonnerie en pierre. Le parpaing, ça n'existe pas. Il n'y a que la brique pleine, qu'il appelait ça, qu'il employait pour faire des tours, des rambards et des ouvertures, comme on voit là. Autrement, les briques creuses, là, ça n'existe pas. Et puis, bon, ben, quand ils ont sorti les parpaings, là, ça y a été vite, parce que... Et puis, la pierre, les maisons, on est fait tout en pierre, intérieur et extérieur. Maintenant, il n'y a plus moyen, parce que c'est trop cher. On a commencé à en faire tout en pierre, intérieur et extérieur. Après, on ne faisait que l'extérieur. Après, bon, il y en a qui montaient la cave en pierre et puis le reste en parpaing. Après, ils mettaient de la pierre autour des rambards, des ouvertures, les angles. Et puis, comme ça coûte tellement cher, c'est fini. Il n'y a plus besoin de se casser la tête pour la maçonnerie. Encore mes outils, mes masses, mes marteaux de maçon, tout ça. Demande le prince, les maçons actuellement, bon, il y a encore quelqu'un qui font de la rénovation, mais les maisons, ils ont toutes été rénovées. Ah oui. Tandis que moi, je suis tombé au moment qu'il fallait toutes les rénover parce que toutes les maisons de campagne étaient toutes sur. Il n'y avait qu'une pièce unique pour toute la famille, qui était 4, 6 ou. Et ce fut de la terre battue, une grande cheminée, une petite fenêtre et puis une porte. Qu'il y avait pas mal de jours dessous. Tout le monde était logé là-dedans. Et ben, ça nous a donné du travail parce qu'il fallait déménager tout, creuser de 25 cm de profondeur, faire un rissot de pierre, un béton, et puis la cuisine, souvent on faisait une chape d'usure bien lissée, poudrée, et puis en. Où l'autre partie, on arrivait à faire deux chambres, et bien là on réserve plus bon pour mettre des lambourdes du parquet. Et la cheminée, souvent qu'on faisait par la même occasion. Chaque fois on le changeait debout de la maison, parce que quand ça ne correspondait pas. Et puis autrement, madame, on faisait beaucoup de façades, des joints à la pierre, des enduits sur la terre, ou que c'était des murs de terre. Et puis des trottoirs aussi, des dallages. Et je travaillais aussi bien pour les cochons parce que j'ai fait des porcheries à l'époque, pas comme maintenant.
Gérard se souvient de tout. Des dates, des jours, des années, de la météo, de la couleur des ciels et du vent sur les joues. Il a en lui ces milliers de tiroirs remplis de souvenirs. Et il a dans ses yeux bleus le sourire d'un enfant curieux. Gérard, né un jour de gel, le 25 janvier 1933.
Il faut marcher un peu pour aller jusque...
Jusqu'au jardin, oui. On n'a pas le jardin auprès de la maison. Mais on avait des genisses dessous. Pendant l'hiver, ils couchaient sous la cabane.
Donc là, on est dans votre potager.
Oui. Ben là, il reste des trucs à faire. On a fait toute la partie là. Là, il y a de l'ail, des échalotes, des oignons. Là, des patates qui sont déjà... Elles sont déjà belles. Et on fait ça souvent parce qu'avec les gelées... Ouais. On allait dans les landes de Tannoy, regarder les vaches, c'était des landes qui appartenaient à la commune et puis qui louaient les agriculteurs. Alors, il y avait 3 km à faire pour emmener les vaches. Et puis, on allait chacun de notre tour garder les vaches. Et puis, une fois que j'étais tout seul là, à les garder, je m'étais endormi. Et quand je me suis réveillé, il n'y avait plus aucune vache dans le champ. Alors, je me demandais où les trouver. Hein. C'était quelle direction qu'ils avaient pris. On les a retrouvés à la fin, mais c'était... Ils auraient pu venir sur la route, tout, ouais, sur la grande route de Combourg. Ouais. Puis on faisait du comment. Quand on les emmenait, on les avait habitués à remonter dessus à cheval. Ouais. C'était des Normandes, ils étaient douces, quoi. Ouais, il y avait moyen. Ouais. Puis nous, on n'était pas lourd à l'âge là, on était, donc ça faisait pas une charge.
Donc là, comme ça, on descend par la ville Lulin alors?
Oui.
D'accord. Non, non, tel
près,
que tu parles.
Le canal, par le...
Par le bourg, ah d'accord. Oui, tout ça n'existait pas, hein. C'est tout à fait récent, tous les lotissements autour. Et c'est une jeune population qui est arrivée. C'est ça un petit peu qui est un peu plus difficile, c'est la rencontre avec les jeunes générations qui arrivent. Hein, Michel?
Comment?
Hein, je dis, on a plus de mal à rencontrer les nouveaux habitants.
Oui.
Parce
qu'ils ne se mélangent pas pareil.
C'est ce qui nous coupe un peu de... Hein, tu ne trouves pas, Michel?
À notre niveau, mais peut-être que l'école fait qu'ils se mélangent. Mais nous,
on n'a plus d'occasion de rencontrer...
plein de gens qu'on ne connaît pas. C'est qu'ils ont envie de vivre là et que voilà, c'est bien, c'est bien.
Ah oui, c'est bien, heureusement.
C'est bien.
Ça a ouvert notre bourg un petit peu plus.
Pour aller à l'école, on avait 3 km, peut-être bien et demi. Et on était plusieurs ensemble à aller, donc on avait du plaisir des fois.
Ah oui, les kilomètres n'étaient pas assez longs.
Ben non, des fois on disait, on est déjà arrivé, c'est pas possible.
Ah oui, les fêtes communales étaient... C'était important à l'époque.
Ah oui.
On n'aurait pas raté la fête communale.
Hein.
Et le soir, il y avait le bal. Quoi. Mais c'est vrai qu'en quelques années, moi, je vois mes frères et sœurs sont arrivés presque 10 ans après, il y avait une évolution. D'abord, mes sœurs sont sorties avec mes frères. Enfin bon, mais il y a une grosse différence entre leur jeunesse et la mienne.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui,
puis à la ferme, puisque c'était à la ferme, le matériel, tout avait évolué. Il y a eu la machine à laver, ça formidable. Hein, Michel, la machine à laver?
Ah ben, j'en ai eu que quand j'étais mariée, moi.
Ah ben, moi, je connaissais pas ça non plus, mais maman l'a acheté quand je suis partie.
Ah, chez mes parents.
J'ai toujours dit que j'aurais dû partir plus vite.
Oui, chez mes parents, il y en avait une, oui.
Hein?
Oui,
ça commençait.
Mais c'était une machine qui brassait, là.
Oui.
C'était pas...
Oui, elle n'était pas complètement...
Et moi, quand je suis arrivée ici, j'allais faire la lessive au canal.
Oui, ben moi aussi. Hein.
Je trouvais ça marrant au départ. Ah, c'était bien. Ouais. Mais ça a été vite... j'ai vite désenchanté. Et on allait chercher l'eau. On allait puiser l'eau au puits encore, là-bas.
Ben oui, moi aussi.
Et alors qu'à la maison, on avait l'eau... Ah non, on n'avait pas sous pression, mais on avait une pompe, déjà.
Oui, ça a commencé, les groupes électropompes qui amenaient l'eau.
Oui.
C'était pas organisé au niveau communal, mais chacun s'installait comme il pouvait, un groupe électropompe qui amenait l'eau sur l'évier quand même. Ah, on avait un seul robinet. Hein.
Oui.
Oui.
Ah ben c'est sûr que dans l'évolution, il y a eu. C'est énorme, énorme.
Oui, mais tu vois, même
par rapport avec
une dizaine d'années.
Voilà, j'allais dire 10 ans.
Ben, oui. Entre nous deux, déjà, il y a une différence. Mais je vois ça avec mes frères et sœurs. Et même les souvenirs, ça s'arrête d'un coup quand j'en parle avec eux. Il y a des choses où eux, ils n'ont pas connu. Quoi.
Le même commun, oui. Ouais.
On est où là? Bon. On est où dans Québriac? Parce que c'est beau ça. On est où?
Alors, c'est la suite du lotissement là, à gauche.
On va au canal là.
Et là, on arrive au canal.
À la Gromillet.
Oui, parce que derrière, vous avez peut-être vu. Derrière là. Ouais. Vous me dites s'il y a un truc derrière?
Surtout si vous allez.
Ah oui, alors là.
Là, on va vous dire.
On dit plus à gauche, plus à gauche. Voilà, c'est bon.
Recule, recule.
Alors moi j'ai une anecdote avec les. Enfin une anecdote, quelque chose qui m'est toujours resté. Quand je me suis mariée, on a mis au-dessus du pont 8 là, donc le canal c'était. Pour moi c'était super. Ah, le dimanche je disais à René, bon allez, on va aller pique-niquer sur le canal. Oh, le canal, le
lui,
canal.
Il avait toujours été là.
Il a toujours vu ça. Alors que moi ça m'émerveillait.
Il y a une canne qui vient tous les ans dans les creux, dans les bordures des creux. Elle vient faire son nid, je ne sais pas si c'est toujours la même, mais toujours à peu près au même endroit. Et je la vois partir, elle est partie maintenant. Quand les petits sont éclos, mais quand ils commencent déjà bien à nager, elle s'en va et ils suivent les uns derrière les autres. Ils n'ont pas le droit de déborder. Ils rejoignent les étangs. Ah, l'étang à Xavier, oui. Je l'ai vu.
Hop là. Et on en a vu des fois, des années, des petits.
Avec des petits,
des petits là.
Ah, c'est mignon que c'est.
Je pense qu'ils se font manger.
Là, le trois canards.
Ah oui, ils sont repartis.
Ils sont ouais.
Je pense qu'on les a dérangés.
Oui, peut-être qu'ils sont.
Et alors, s'il y a souvent un héron ici aussi.
Ah oui. Oui, oui.
Ouais,
ben, on l'a vu l'autre jour là.
Oui. Ouais. Regardez le beau vert du printemps,
ah oui, là,
là, c'est joli.
Oui.
Ouais.
Il y a beaucoup moins de variétés pendant l'été, quoi. C'est maintenant là.
Mais c'est des verts tendres là.
Passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma, bianca non è la rosa che porto a te, gialla com'è la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole. Come il veleno che stilla dal tuo seno, gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano, petalo a petalo mostrano il colore. ma il fiore che da solo cresce nel rovo. Rosso non è l'amore, bianco non è dolore, il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dolore, perfetto dal dono che fa di sé.
Au bout de la ligne, il y a le point, puis le coin. Ce coin sonne la fin d'une première trajectoire.
Ça y est, les villas sont
un coin où l'on s'arrête, un coin où l'on se rassemble, se cogne, se blottit, d'où l'on observe le monde. C'est un petit morceau d'espace qui en ouvre un autre, plus vaste. Car en rendant visible l'invisible, il crée un monde infini. Dans l'infini, on n'est jamais vraiment chez soi, alors que dans le coin. Et puis un jour, on quitte le coin, on reprend nos trajectoires erratiques, qui nous ferons, si les points ne sont pas alignés, rencontrer d'autres coins.
J'ai passé ma jeunesse ici, hein. Je suis né en face, mais j'ai surtout habité où on est là. Puis on a rénové ça il y a 20 ans, plus de 20 ans, puisque c'était en 97. Et c'est là qu'on est revenu. Voilà. Donc j'ai passé mes 20 premières années, ou 21 premières années ici, mais j'étais, quand j'ai commencé à travailler, j'étais pas souvent là, c'est mes parents qui étaient là, quoi. Puis on est revenu 30 ans après, environ. Bah oui, oui, c'est ça. Voilà, on a rénové la maison. Donc on a rénové cette maison-là en 97. Bon, j'allais sur mes 50 ans. Ça fait 25 ans. Mais bon, c'est pour dire que j'ai pas toujours été là. Même quand mes parents habitaient là, je connaissais que mes parents et peut-être la famille des fois, mais après, j'avais perdu de vue Québriac. Même les copains étaient partis ailleurs aussi, donc c'est quand on est revenu habiter ici qu'on a repris un peu, que je me suis rappelé certaines choses, parce que j'avais tout oublié, quoi. Presque tout. Mais on est, puisqu'on habitait Combourg, une partie, les trois quarts du temps, c'était sur Combourg. On a déménagé assez souvent, mais on a été beaucoup sur Combourg. Donc voilà, on n'a pas été québriacois à plein temps, voilà. C'est aussi les circonstances, hein, d'avoir la maison et de la rénover aussi, qui nous a ramenés ici, quoi. Sinon, je ne sais pas où on serait. Enfin, ça, c'est la vie. Parce qu'on a quand même déménagé 7-8 fois, 9 fois, je crois, après. Et là, on est là depuis 25 ans. Alors, ça a été... C'est long. Quand j'étais jeune, quand j'étais, jusqu'à 14-15 ans, comme ici c'était une toute petite ferme, puisque mon père était artisan, donc c'était pas viable, quoi. C'était surtout le métier d'usine, mais un peu comme partout, même ceux qui tenaient un bistrot à Québriac ou Grandbois ou ailleurs, souvent le mari faisait un autre métier. C'était ça à l'époque. Donc nous, comme c'était proviable, on allait garder les vaches, comme on disait, dans les fermes un peu plus importantes que les nôtres, quoi, on va dire. On allait dans le secteur, et souvent ici, ce qui se passait, c'est, vous savez où est le zoo-loisir, enfin l'ancien zoo-loisir, ou le musée de la faune, là, toute une partie dans les landes de Tannoir. Donc il y a 27... Enfin, une vingtaine d'hectares qui ont été vendus. Tout ça, c'est communal, toute cette partie-là. Et les 20 et quelques hectares ont été vendus par la commune au musée de la zone. Mais avant, c'était des prairies ou des champs, mais c'était surtout des prairies. Et tous les gens du coin louaient à la commune un carré, je ne sais pas comment on appelle ça, moi, quelques hectares à la commune, et ils nous envoyaient garder les vaches, et on se retrouvait à plein de jeunes là-bas, enfin plein, 5 ou 6 ou 10 pour garder les vaches. Il n'y avait pas de clôture en ce temps-là. Alors c'est des années 60, ça. Début des années 60. Et avant. Mais moi avant, c'était surtout la génération d'avant moi.
Il y avait Daniel dans les garçons qui gardaient les vaches, il n'y avait pas Daniel.
Et il est au bourg, lui.
Oui. Ouais, mais il nous racontait l'histoire qu'il gardait les vaches aussi.
Oui, mais eux, ils avaient une ferme importante, donc ils devaient garder chez ses parents, lui. Même eux, ils avaient peut-être loué un carré dans les Landes, à la commune. Parce que tout à partir de, on va dire, l'étang des Nôts, nous, dans notre coin, là, on était... Entre le Grand Bois et Travaux, on va dire, la ville est loin, là, on était un peu dans notre petit groupe, quoi, notre petit monde. Puis, dans les années 60, fin des années 50, il y avait encore deux écoles, quoi. Il y avait l'école privée et l'école publique. Alors, il y avait les filles qui étaient chez les Bonnes Sœurs, où il y a une maison qui est... Enfin, vous avez dû en entendre parler, dans le bourg, hein, il y a un mur en face, l'école. L'école publique, de l'autre côté de la route, ça c'était les religieuses qui étaient là. Donc c'était l'école des filles pour le privé. Et à La Noisse, alors La Noisse ça vous dit rien non plus, c'est à côté du terrain de foot, nous on appelle ça La Noisse. Alors il y a une petite maison qui est en face le terrain de sport, ça c'était l'école des garçons et c'était le vicaire, et parce qu'ils étaient deux prêtres, et c'était le vicaire qui faisait l'école des garçons. Et nous, on était au public, alors on commençait à La Noisse, mais là où c'est la salle polyvalente maintenant. Hein, là, c'était, on savait, c'est ça le style d'une école de toute façon. Hein, un peu comme à la Galonnière à Combourg, là, ça c'est un peu le même genre, quoi. Hein, puisqu'à Combourg, il y avait cinq écoles de campagne à une époque. Ah oui, il y a la Galonnière qui est pas loin d'ici, là. Mais il y en a sur les autres routes, d'Angers... Bonnemain, La Haye, sur Saint-Léger, là, tout ça. Alors, on commençait, on faisait 2 ans à La Noisse, et puis après, on allait... Où est l'école maintenant? Il y avait deux instituts qui faisaient 5 divisions à peu près, parce qu'on allait jusqu'au certificat d'études à cette époque-là. À part certains, deux, trois ou quatre mois de mon année, on a été quatre à aller au collège, mais c'était pas l'habitude. On allait jusqu'à 14 ans. Oh, je vais le sortir quand même parce que il a envie de sortir. Allez, viens. Les instituteurs, souvent, c'était un couple qui habitait à la Noisse. Et puis le directeur, qui faisait l'école, là, une des classes à Québriac, qui moi, à mon époque, il s'appelait Cogné. Mais sa femme n'était pas institutrice, donc il était directeur. Et il faisait en même temps secrétaire de mairie. C'est après, les années d'après, là, quand moi j'ai quitté l'école, qu'il y a eu une secrétaire de mairie à plein temps. Mais à cette époque-là, c'était l'instituteur. Parce que la mairie était au-dessus de l'école. Puisque où est la mairie maintenant, c'était le presbytère. Voilà. Parce que nous, pour aller à l'école, déjà, on avait 4 km à faire, mais ceux de Travoulaville et loin, ils avaient deux de plus. Hein, ils allaient à pied, nous aussi. Et ben, on jouait tout le long du chemin, mais à l'aller, pas tellement, c'est plutôt le soir qu'on traînait un peu partout, quoi. On faisait n'importe quoi. Donc là, c'était plus long. Et puis quand je suis allé en 6e à Tinténiac, la route de la Beaucène, eh ben je remontais, on retrouvait ceux de Québriac et puis on faisait comme eux, quoi. Mais on était en vélo, là, à ce moment-là. Moi, j'ai connu le ramassage scolaire qu'en 3e. En l'année 62-63, c'est là qu'ils ont créé le ramassage scolaire. Ça n'existait pas avant. On prenait le car à la mare, mais moi j'ai connu ça qu'un an. D'abord la route, on la suivait pas, on allait par d'autres chemins. C'est jamais les bons chemins. Ouais. Et en principe, le matin, on était toujours à l'heure. Hein. C'était ceux qui habitaient à côté de l'école qui étaient souvent en retard, mais bon, ça, on n'apprend rien à personne. Ces choses-là, moi je suis parti pendant plus de 30 ans, bon, on venait chez les parents, mais c'est tout. On ne suivait plus Québriac. Il y en a qui ont été toujours à Québriac, quoi, qui sont restés. Bon, ceux qui étaient en ferme notamment, puis... mais autrement, beaucoup sont partis aussi, hein, qu'on n'a même pas revus. Il y en a, on voit, qui reviennent comme moi à Québriac. Mais on n'est jamais parti loin, de toute façon. Nous, à part la Normandie, pendant 2 ans, on n'a jamais été bien loin, quoi. Par contre, ici, on a eu l'électricité, enfin, tout ce secteur ici, on a dû l'avoir avant la guerre ou pendant la guerre. Tout ça parce que le maire de l'époque, alors, le fait que l'électricité vient de Combourg aussi, hein, elle vient de la sous-station de Combourg, qui est de l'autre côté de la gare. Mais on nous a dit que c'est parce que le maire habitait à la mare, un village quand vous tournez pour venir vers ici, là. Et le maire était là, il s'appelait Le Gendre. Et il y en a qui disent que ce quartier-là était servi en premier parce que le maire habitait là. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que la ligne passait par là aussi, du fait que ça venait de Combourg, quoi. Et le bourg a dû être servi aussi. Par contre, le reste de la commune a été desservi que dans les années 50. Après, quoi. Donc, ils sont passés aux 220 volts à ce moment-là. Ceux-là, c'était le 110. Et je me souviens que c'est passé du 110 au 220 ici. J'ai entendu mon père le dire, tiens, faut qu'on passe au 220, enfin, parce que tout était passé au 220, quoi. C'était obligatoire, de toute façon. Et le téléphone, il n'est arrivé que dans les années 70. L'eau est arrivée autour de 1970, hein, le réseau d'eau. Là, on allait au puits. On avait un puits, nous, en descendant, mais tous les villages en avaient, de toute façon, un ou deux ou trois, dépendait de l'importance des villages. Mais ici, bon, on avait un puits qui ne tarissait jamais, donc il est toujours là, mais on ne le voit plus, hein, en descendant, là, vers la vallée. Parce que la nappe phréatique, bien qu'on est en période, soi-disant, de sécheresse, ici, on a une bonne nappe phréatique, hein. Elle a remonté un peu, là, mais... Parce qu'on est tout un plateau qui va d'ici, parce qu'il y a la vallée après, mais ça va jusqu'à... Je pense que ça va... Dans ce sens-là, ça va jusqu'à Chipy et... La Ville-Thébault, mais au-dessus, quoi. Hein, et vers les Landes, aussi. Donc je pense qu'il y a une bonne réserve, quoi. Ça va plus recharger. Les nappes ne vont pas se recharger maintenant, puisqu'il y a la végétation qui pompe. Hein. Donc on ne sait pas, cet été ça peut être critique, mais je pense que ce ne sera pas nous les plus embêtés, on va dire. Il y en aura sûrement d'autres qui vont avoir des problèmes pires que nous. Hein. Oui. Ah, y a un truc que quand même, en revenant en arrière, tout le monde, surtout à la campagne, dans le bourg, les anciens aussi, mais pas trop les jeunes, on parlait patois. Le galop, quoi, si on veut. Mais enfin, c'était le galop déformé, hein, je pense. J'ai connu des anciens qui disaient des mots que même moi, je ne comprenais pas. Mais on parlait tous patois, ici. Ventier bain, ça veut dire peut-être. Peut-être bain, des choses comme ça. Mais non, une bourrette, c'est une boutsoule, pour soule. Enfin, ça dépend des endroits, quoi. Ouais. Mon père chantait, oui. Oui. Il a même un cahier qu'il a écrit pendant son service militaire au Maroc, dans les années 27. Parce qu'on a 40 ans d'écart, donc... on avait, parce que... Et il a un cahier des chansons entre les deux guerres. Qu'il avait écrit, mais il n'y avait pas de photocopie en ce temps-là. Il avait réécrit ça à la main, alors à sa façon, parce que... C'était un manuel, lui, donc... Il n'écrivait pas tous les jours, mais il faisait pas trop de fautes d'orthographe quand même. Faut pas se plaindre. Il y avait la garçonne, il y avait enfin, des chansons de Tino Rossi beaucoup. Le gardien. Alors gardien, c'est la Camargue, ça. Puis je sais plus quoi, oui. Oh, je me rappelle plus. Puis c'était qu'à certaines occasions qu'il chantait, mais il n'y avait pas besoin de lui demander, hein. Il se levait puis il chantait.
Le regard lourd, les cheveux courts, cigarette au bec, oui, voici la garçonne à qui lui plaît. Lui fait des frais, elle se dort et l'oublie après. Elle agit comme font tous les hommes. C'est la dépendance pour elle enfin qui sonne. Oui, c'est bien son heure de goûter au bonheur. Il est temps, fille d'Ève, reprenant de l'aplomb, que la femme relève et la jupe non, et le front.
Bon, il est temps les mecs qui faisaient tout.
Alors,
racontez-moi ça.
On était tous assis sur le banc.
Non, pas celui-là, il est moche.
On était tous assis sur le banc, là, puis on attendait qu'il y en ait un qui vienne. Ah non, celui-là, il est trop petit.
Et puis, quelquefois.
Ah non, l'autre, il est trop moche.
J'avais la surprise, il était plus petit que toi.
Ah non, moi c'était contraire. Mais vu que je suis pas grande, je trouvais toujours des gars.
Moi j'avais une amie, elle était assez grande. Oh, à chaque fois, elle ne trouvait jamais le cavalier à sa hauteur. Ça c'était rigolo.
Au début du slow, tu te tenais à distance et puis tout d'un coup, ben, ça se rapprochait.
Oh, mais je,
après, ça frottait un petit peu. Quoi.
Les mecs qui faisaient. Hein. Les mecs qui faisaient tout, là,
c'est vrai. Tu te disais, pourvu que le prochain saut, il repasse. Ouais. Oh, merde, il était pris avec une autre avant. Oh, ça allait pas. Zut, ça avait foiré. Ah.
Je n'ai pas trouvé en boîte de nuit, hein, comme n'importe qui. Hein. J'ai trouvé dans mon boulot. Il était à côté. Ah, voilà. J'ai trompé l'amoureux de lui.
Puis comme c'était assez tamisé, on ne voyait pas toujours vraiment le cavalier, oui. Comment il était. C'est une fois qu'on était dehors, on disait « Oh mon Dieu, il est moche !»
Moi, je n'ai pas trouvé ça. Hein. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il était moche. Hein.
Oui, mais la beauté ne se mange pas en salade.
Non, ah, bah, non. Ouais, c'est... Moi, j'ai trouvé qu'il était mignon.
De la retraite, on est toujours en fête, on est toujours content, et puis de temps en temps, joyeux, on part en voyage, on voit de beaux paysages, on est bien entre amis, et l'on chante et l'on rit, on profite enfin de la vie.
Cette émission a été réalisée par Camille et Elodie. Merci à Loulou, merci Gérard, merci Daniel, merci Yvonne, Michel et Thérèse, merci Jean et le club, merci Gérard, merci Madeleine, Huguette, Claudine, Josiane, Aude, Julie, Chloé, Madeleine, Maria, Martine. Et merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette émission possible. Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guaira la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chiedilo alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susino. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.